Donc, je veux lui dire bonjour à tout le monde, à tous, à toutes. Et aussi, on veut dire bonjour à nos amis qui sont sur Internet, parce qu'il y en a des gens qui viennent voir les prédications, qui ne font pas partie de notre Église. Et donc, on ne sait pas si ce sont des chrétiens ou des non-chrétiens, mais ils viennent. Et donc, quand j'adresse le message, je suis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est vrai, pour nous qui sommes chrétiens, ce thème du péché, c'est vraiment dans notre passé. On a passé cette étape-là, on est sauvé maintenant et on veut marcher avec Dieu. Mais dans la parole, Dieu, il a vraiment insisté sur ces thèmes. Et donc, en faisant paragraphe par paragraphe à travers la parole, il faut que j'expose chaque verset, au moins chaque paragraphe, dans la lumière de la parole. Donc, on est dans Romains chapitre 3 aujourd'hui, qu'on a déjà commencé, Romains chapitre 3. Donc, aujourd'hui, c'est les versets 3 à 20. Romains chapitre 3, versets 3 à 20. Les sujets que je vais traiter, donc premièrement, c'est la fidélité et la véracité de Dieu. Après, c'est l'infidélité et le mensonge chez l'homme. Et puis à la fin, je vais vous inviter à évaluer votre vie par le miroir de la parole. Dans le dernier message, nous avons appris que les rites religieux n'ont aucun bénéfice spirituel. Et puis, on a aussi observé, dans le début de ce chapitre, que Dieu a choisi le peuple d'Israël, le peuple juif, par lequel il allait communiquer la révélation divine. Donc, sur cette base, Paul, il pose la question au verset 3, hein, puisque Dieu a révélé sa volonté au peuple juif, Paul dit, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle ou détruira-t-elle la fidélité de Dieu? Et au verset 4, il répond, loin de là. C'est-à-dire, bien sûr que non, certainement pas. Donc, il est vrai qu'il y a toujours les gens qui croient et d'autres gens qui ne croient pas. On vit dans un monde qui a les croyants et les non-croyants. Malheureusement, il y a souvent plus de monde non-croyant que croyant. Pourtant, quant à Dieu, lui, il tient ses promesses de félicité envers ceux qui ont cru à ses promesses et il tient ses promesses de jugement envers ceux qui n'ont pas cru. C'est-à-dire, Dieu est fidèle. Apocalypse 19, 11 dit que le Seigneur Jésus-Christ est fidèle et véritable. Aussi, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, nous lisons, si nous, et le nous là, c'est nous les croyants, ok, à nulle honte dans cette phrase, n'est-ce pas? Si nous sommes infidèles, il, donc Dieu, demeure fidèle, car il ne peut renier lui-même. Dieu est fidèle. Donc, dans ce verset, premièrement, Dieu est fidèle à lui-même, car il ne peut renier lui-même. S'il a fait une promesse, il se tient à lui de tenir sa promesse. Secondement, il est fidèle à sa parole. Dieu est tellement sûr de lui-même qu'il a écrit noir sur blanc ses promesses. Et troisièmement, Dieu est fidèle envers ceux qui lui ont fait confiance. En revanche, les hommes ne sont pas fidèles. Au au verset 4, que Dieu, au contraire, donc au contraire des hommes infidèles, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tout soit trouvé juste. C'est-à-dire que Dieu soit déclaré juste ou acquitté dans tes paroles et que tu triomphes, que tu vaincres lorsqu'on te juge. Et il est vrai que nous, les êtres humains, nous sommes très rapides d'accuser Dieu, de critiquer Dieu, de douter de l'honnêteté de Dieu, ou de sa droiture, de la justice et même de l'amour de Dieu. On est rapide. Oh non, c'est pas vrai. Ah ben oui, c'est vrai. Nous sommes rapides à condamner Dieu quand les choses ne vont pas comme nous avons voulu, ou quand on est déçu parce que Dieu a dit peut-être non à notre prière. Donc, vous écrivez ceci dans votre cœur. Nous avons toujours tort de condamner Dieu. Nous avons toujours tort de condamner Dieu. Jamais personne n'aura raison de critiquer Dieu ni sa parole. Dieu est incomparable. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a toujours raison. Il dit toujours vrai. Sa parole est digne de confiance. Comme j'ai déjà dit, il a écrit noir sur blanc dans les Écritures. Vous pouvez faire confiance à Dieu et à sa parole. Vous pouvez faire confiance. Il est fidèle. Mais vous devez vous méfier des hommes, l'humanité, n'est-ce pas? En comparaison avec la vérité absolue en Dieu, tout homme est menteur. Non seulement les hommes font des erreurs, ce que Dieu ne fait pas, mais les hommes mentent. Cela se voit dans la politique, comme dans la religion, et bien sûr aussi dans le commerce. Chacun est égoïste, chacun cherche son avantage. Dans le neuvième message, donc le dernier message, j'ai parlé de l'hypocrisie et j'ai dit que l'hypocrisie est une forme de mensonge. Quand un politicien ment, les gens disent « c'est normal ». Car c'est dans la nature des politiciens. Je ne dis pas que c'est vrai ou faux, mais c'est ça que les gens disent. Quand les personnes religieuses mentent, qu'elles sont hypocrites, les gens disent que voilà une autre preuve que Dieu n'existe pas. La religion, dit-on, est simplement un outil pour manipuler les masses. Premièrement, l'hypocrisie des hypocrites n'est nullement une preuve de l'absence de Dieu. Dieu lui-même est toujours vrai. Non, leur mensonge, leur manipulation, leur abus sont la preuve que ces gens religieux ont des agendas différents, des agendas tout à fait humains. C'est la preuve, comme dit Paul ailleurs, qu'ils servent leur propre ventre. Nombreux sont les gens, croyants et non-croyants, qui ont été déçus par les propres insensés des prétendus serviteurs de Dieu. C'est la réalité. Mes amis, toute religion qui n'est pas solidement fondée sur la base de la parole de Dieu reviennent à la manipulation. Eh bien, il faut dire que il n'en manque pas. Il y en a beaucoup. Par contre, la vérité en Dieu n'est pas une manipulation, mais l'offre du secours divin. Dieu veut nous aider.
C'est pour cela qu'il a donné sa parole. D'ailleurs, Jésus dit que le mensonge est propre au diable. Le diable a inventé le premier mensonge et continue à les répandre à travers les millénaires. En tant que pécheur, la Bible affirme que tout homme est menteur. Apocalypse 21:8 nous dit, nous met en garde de mourir sans être lavé de nos mensonges, de nos péchés, mais en particulier de nos mensonges. Car tout homme est menteur et tous les menteurs auront leur part dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On revient sur le verset 5. Mais si notre injustice établit ou met en avant la justice de Dieu, que dirons-nous? Donc imaginons que vous tombez en panne sur la route nationale pendant la nuit. Vous prenez votre lampe de poche de la boîte à gants et là, la nuit vous entoure. Mais en allumant votre lampe de poche, en fait, vous allez voir clair. Quel contraste! L'un rend-il non existant l'autre? Donc, est-ce que la nuit rend non existante la lumière de la lampe de poche? Ou est-ce que la lampe de poche rend non existante la nuit? Et la réponse est non. La lampe de poche émet autant de lumière, de lumen, de lumière, le jour que la nuit. Mais sa luminosité est mise en évidence ou valorisée pendant la nuit. Et Dieu est toujours juste. Donc, quant à nous, cela se voit surtout quand l'injustice se manifeste. On voit l'injustice et on voit le contraste avec la justice de Dieu. Encore verset 5. Dieu est-il injuste quand il déchaîne? Quand il applique sa colère, Dieu est-il injuste quand il prononce un jugement? La réponse est non. Dieu est toujours juste. Il est Dieu. Dans sa justice, il doit prononcer la condamnation contre l'injustice. Et là, je veux dire toute injustice. Il ne peut pas dévier de sa droiture. C'est pour cela que Dieu s'est engagé de mourir lui-même. Sa justice exige notre condamnation pour tous nos péchés, tous et chacun de nos péchés. Mais Dieu s'est substitué lui-même à la place de chacun. C'est pour cela que même qu'il a pris notre humanité dans le but exprès de céder son corps humain en sacrifice pour nos péchés. Ainsi, sa justice divine était entièrement satisfaite et Jésus est revenu à la vie, la résurrection. Cela permet donc à l'amour de Dieu de se manifester désormais, depuis ce moment-là, par la grâce, à travers l'Évangile, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc encore verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Donc, Paul parle comme les gens autour de lui. La réponse, loin de là, certainement pas. Autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde? Si Dieu est injuste, il ne peut pas nous juger. Mais il est juste. Dieu, il est Dieu et il est juste. Toujours juste. Verset 7. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage, pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Nos mensonges provoquent la colère de Dieu. Parce que Dieu est entièrement, absolument vrai. Si vous mentez, vous êtes coupable. Et vous méritez les conséquences de vos actions et de vos paroles. Vous serez jugé pour vos péchés, puisque vous en êtes responsable de chacun de vos péchés. Verset 8. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Donc, quelques ennemis de Paul mentaient à son sujet en prétendant que Paul agréait le mensonge. Cette accusation était elle-même un mensonge malicieux. Ces gens-là, ils mentaient, donc ils méritaient la condamnation de leur calomnie contre Paul. Or, typiquement, quand on ment, c'est pour un avantage personnel et au détriment des autres. On n'a jamais raison de faire le mal dans l'objectif de faire plus tard du bien ou dans l'objectif d'avoir l'espoir que le bien en ressortira. Multiplier le mal ne fait qu'empirer la misère des gens et qu'augmenter la culpabilité des coupables. L'unique contexte où le mensonge devient justifiable se trouve dans le cas où l'on se met soi-même en danger afin de sauvegarder la vie des innocents. Par exemple, les gens qui ont protégé les Juifs des nazis, tout en risquant eux-mêmes la colère des nazis. Ou l'exemple biblique, donc c'est Rahab à Jéricho, qui a protégé la vie des deux Israélites. Verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nous, les Juifs, sommes-nous plus excellents que le reste du monde? Nous, les chrétiens, sommes-nous plus excellents que le reste du monde? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Alors, littéralement, sous l'empire du péché, c'est tous sous péché. Et c'est dans le sens que tous sont inclus sous la catégorie du pécheur, comme une position ou comme une condition. On est tous dans cette condition de pécheur. Paul va citer maintenant dans les psaumes de David et ce portrait de l'être humain dépeint surtout par David, que Paul va tisser ensemble, est affreux. Pourtant, ceci s'accorde avec tout ce que nous avons déjà appris jusqu'ici dans l'Épître aux Romains. Donc, je vais citer ce que Paul a écrit. Il vient des psaumes, mais c'est 5 psaumes différents et encore un petit passage dans Ésaïe. Paul les a tissés ensemble. Verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, ou tous se sont détournés. Donc, dans le monde, il y a des gens, il y a peut-être beaucoup de gens, qui se considèrent innocents, ou assez innocents, ou qui croient qu'il y a des gens qui ont un bon cœur. Mais, ils ont tort. Ils croient qu'il y a des gens qui n'ont pas de péché.
La Bible dit que nous sommes tous nés pécheurs et que nous commettons tous des péchés. Au lieu de rejeter cette vérité, il faut plutôt l'embrasser comme étant la vérité qu'elle est, puis demander pardon à Dieu sur la base de l'Évangile. Le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, nous décrit, nous les êtres humains, il nous décrit comme des brebis détournées, perdues, chacun poursuivant son propre chemin. Et puis dans le Nouveau Testament, on a Jésus qui est décrit, lui, d'ailleurs c'est lui-même qui se décrit, comme le bon berger qui est à la recherche des brebis perdues. Au verset 12, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est catégorique. La plupart du monde se considère assez bien selon ses propres critères. Mais dans sa perfection et sa sainteté, c'est une sainteté infinie, Dieu déclare que non! Toutes nos bonnes œuvres, toutes nos bonnes actions sont polluées par diverses motivations, parfois même incompréhensibles. Mais par l'Évangile de Jésus-Christ, Dieu nous rend utiles. Quel miracle! Quelle grâce! Dieu est le premier à faire du recyclage. Il nous a sortis de la poubelle, nous a purifiés et ils nous rendent utiles. Attention, Dieu fait bien plus que nous réformer. Il fait de chaque croyant une nouvelle création. Comme nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, David continue sa description de l'homme, verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Verset 15. Ils ont les pieds légers ou prompts pour répandre le sang. La destruction, donc ce mot destruction, c'est le mot ruine. Mais ça vient d'un verbe qui veut dire briser ou mettre en pièces ou écraser. Okay, vous imaginez donc la destruction. Avec toute cette pensée, la destruction et le malheur, donc la misère, sont sur leur route. C'est ce que fait l'humanité. Et ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Donc il n'y a pas besoin de regarder plus loin que nos journaux, les informations, pour se rendre compte des méchancetés dont l'homme est capable. Donc on ne va pas approfondir. Paul a déjà fait. Nos journaux le font tous les jours. Aussi, je voulais dire que cette phrase, la crainte de Dieu, donc dans l'Ancien Testament, cette expression, la crainte de Dieu ou craignant Dieu, est utilisée pour désigner ceux qui ont confiance en Dieu. C'est avant la croix. C'est les gens sauvés avant que Jésus est venu. Nous qui croyons, nous avons du respect pour Dieu. Nous avons une crainte respectueuse pour Dieu et pour sa parole. C'est ça que cette phrase veut dire. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc l'idée, c'est que la loi de Dieu illumine ce qui est mal et ce qui n'est pas bien. Par elle, chacun, donc nous tous, nous pouvons chacun se rendre compte de nos fautes
de notre culpabilité devant Dieu.
Donc, rappelez-vous, dans Romains chapitre 1, là, Paul a montré que l'humanité entière s'est éloignée volontairement du vrai Dieu. Toute personne est pécheur en fuite de Dieu, mais Dieu vient vers nous. Déjà, dans le jardin Éden, Dieu est venu trouver Adam dans le but de susciter en lui la compréhension de sa culpabilité. Puis, comme nous avons vu juste au début de chapitre 3, dans le dernier message, Dieu a communiqué sa révélation au peuple d'Israël. Pourtant, la révélation divine ne vient en aide qu'à partir du moment que l'on y croit. Comme nous lisons dans Hébreux chapitre 4 et verset 2, c'est la fin du verset, « Mais la parole qui leur fut annoncée, donc annoncée aux Israélites, ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Au verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Comme on a vu rapidement dans le dernier message, Paul avait dans le judaïsme, avant d'être chrétien, dans le judaïsme, Paul avait consacré sa vie à suivre, à appliquer, à être le meilleur modèle possible devant la loi. Mais, à la rencontre de Jésus-Christ, Paul a dû confesser, « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Parce que la loi nous condamne. La loi ne donne pas vie. On va voir ça plus tard dans l'Épître. La loi ne donne pas vie. Vous passez, vous passez, vous passez les feux verts, ça va, mais vous ne recevez rien. On ne vous paye pas 100 euros. Mais vous passez sur le feu rouge et tout de suite, on va vous donner une amende. Et c'est ça la loi. Ceci veut dire que, quoi que soit votre religion ou votre philosophie, elle ne vous justifiera jamais devant Dieu. À la limite, vous arriverez peut-être à persuader quelques personnes de votre sincérité et de votre bonté, mais jamais Dieu. Dieu voit tous les recoins de votre cœur et de vos pensées. Il connaît la vérité sur vous. C'est vous qui ne connaissez pas la vérité sur vous. C'est pour cela que Dieu a donné la loi, pour nous montrer notre état réel devant Dieu. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi nous montre notre culpabilité pour que nous puissions nous rendre compte et venir demander le secours de Dieu. Pour qu'on puisse demander la grâce de Dieu. Soit le non-croyant qui vient demander pardon en invoquant le Seigneur Jésus-Christ, soit le croyant qui reconnaît devant Dieu ses fautes quotidiennes, comme Jean l'a écrit dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons, donc il écrit aux chrétiens, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. À travers nos lectures dans Romains chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, nous avons appris surtout des mauvaises nouvelles déprimantes concernant l'humanité. Paul a approfondi son explication sur le péché et la méchanceté de l'homme pour montrer combien l'humanité a besoin du secours divin.
Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons reconnu notre besoin du salut. Grâce à l'Évangile, Dieu nous a pardonnés. Il nous a purifiés. Et il continue de nous pardonner et de nous purifier. D'ailleurs, quand vous partagez l'Évangile avec un non-croyant, avec les gens, n'essayez pas d'éviter de parler du péché et de la condamnation. Ce n'est pas la peine. Il faut annoncer les mauvaises nouvelles en parlant de l'Évangile. Autrement, les gens ne se reconnaîtront pas perdus et sans espoir. L'Évangile est un peu comme la lumière de cette lampe de poche dont on a parlé tout à l'heure. L'Évangile est constant. Ça ne change pas. Pour l'apprécier, il faut comprendre les ténèbres qui vous entourent. Parler simplement de l'amour de Dieu n'a aucun sens avant de comprendre que nous sommes en guerre contre Dieu et que Dieu cherche la réconciliation avec chacun. Dès la fin du chapitre 3, que nous verrons la prochaine fois, nous commencerons à voir des bonnes nouvelles. C'est fini, les mauvaises nouvelles. Car l'Évangile est une bonne nouvelle. Paul va dire dans Romains chapitre 3, versets 23 et 24, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc ça résume tout ce qu'on a vu jusqu'à là. Mais il continue, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Nous avons, c'est vrai, nous avons tous péché, mais Dieu peut et veut nous sauver par la foi en Jésus-Christ. Donc, je voudrais vous encourager à relire chez vous, dans Romains chapitre 1, 2 et 3, et vous allez vous mettre devant Dieu pour voir où vous en êtes devant Dieu. Comme Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 et verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Si vous n'êtes pas encore croyant en Jésus-Christ, donc je vous propose de lire aussi Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Ce sont les 10 commandements. « En priant que Dieu vous montre vos fautes, elle vous servira de miroir spirituel. » Le mieux que vous compreniez votre état devant Dieu, bon, c'est vrai pour nous tous, n'est-ce pas? Eh bien, le plus que vous allez aimer Dieu grâce à l'Évangile. Ceci est vrai, comme j'ai dit, pour nous tous. C'est comme Jésus a dit dans Luc chapitre 7, versets 47 et 48. Donc Jésus dit, « C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on a pardonné peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Tes péchés sont pardonnés. N'est-ce pas une belle phrase à entendre de la part de Dieu? « Tes péchés sont pardonnés. » Moi, je suis toujours reconnaissant au Seigneur d'avoir pardonné mes péchés. D'ailleurs, quand nous partageons le repas du Seigneur, c'est pour nous rappeler à quel prix il fallait payer. Le Seigneur a dû payer pour nous pardonner.